Comme à chaque étape, vous serez emporté par le flot puissant de l'histoire.
L'iconoclasme chez nous.
Nous ne voulons plus d'idoles inanimées. Détruisons le symbole du fanatisme.
Nous sommes dans une église désaffectée de la Révolution française. Il est fort probable que les destructions d'objets d'art et d'histoire que met en scène aujourd'hui l'organisation État islamique s'accompagnent de démontages cachés d'objets d'art qu'elle place ensuite dans les circuits commerciaux souterrains. Il n'empêche, l'organisation sélectionne des figures anciennes, elle les renvoie au néant, ce qu'elle donne à voir s'apparente à l'iconoclasme. Iconoclasme. L'usage du mot s'est peu à peu généralisé en français à partir du moment où on a compris que la destruction organisée des images, telle qu'elle avait été pratiquée pendant la Révolution, avait dépassé le seul simple vandalisme. Mais l'Europe avait déjà connu auparavant au moins deux moments d'iconoclasme. Au XVIe siècle, avec Calvin principalement, et surtout dès le 8e, l'Empire byzantin avait été secoué par une furieuse querelle qui dura 100 ans. Les icônes étaient-elles simplement du bois peint par des mains d'hommes, ou bien empruntaient-elles frauduleusement un peu de sa part de divinité à Dieu ? Dans un cas comme dans un autre, les iconoclastes disaient qu'elle méritait d'être détruite. On peut douter que les dirigeants de l'organisation État islamique connaissent précisément cette histoire. Ils réveillent cependant chez nous un vieil effroi en maniant masse, marteau-piqueur et bulldozer devant les caméras. C'est d'ailleurs un des paradoxes de l'iconoclasme contemporain. Il produit à son tour des images.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Avec Emmanuel Furex, bonjour.
Bonjour.
Excellent historien, on connaît un chef-d'œuvre déjà, sous votre plume, la France des larmes, où vous étudiez les émotions, les symboles, les rites au XIXe siècle.
Oui, le rôle des deuils politiques plutôt dans la France de l'âge romantique, premier XIXe siècle.
Et vous aimez bien travailler collectivement et vous avez animé aux éditions Champvallon, c'est une de vos maisons d'édition favorites, un volume à plusieurs mains qui s'intitule « Iconoclasme et révolution ». Alors vous allez me dire, je ne suis pas un spécialiste de l'histoire de Byzance, moi non plus, mais pour expliquer les mots qu'on va utiliser tout au long de cette émission, il faut remonter, étant donné qu'on s'intéresse nous seulement aujourd'hui à l'Europe, au 8e siècle et même peut-être à l'époque où peu à peu le vocabulaire des images chrétiennes s'est enrichi. Il était très pauvre au début. Il y avait des poissons, des symboles, très peu de représentations portraiturées.
Oui, on remonte très loin en arrière. C'est très important pour l'histoire de l'iconoclasme de montrer à la fois les formes de continuité dans les gestes, mais aussi les ruptures dans le sens que prennent ces gestes. Donc le poids des mots est aussi très fort. Et remonter à Byzance, c'est remonter à l'origine du mot iconoclasme, qui signifie donc briser des images religieuse dans un premier temps, puis le sens s'est étendu jusqu'aux images en général. Alors le problème que soulève l'iconoclasme byzantin, c'est celui de la représentation du Christ, c'est-à-dire la double nature du Christ, à la fois humaine et divine. Comment concilier dans une image cette double nature? Et les iconoclastes considèrent que représenter Dieu à travers un corps est une hérésie, et par conséquent réprime le culte des images. Car la deuxième chose qui est visée, c'est l'adoration des images en tant que telles, ce qui donne un conflit effectivement de plus d'un siècle entre iconoclastes et iconodoules,
c'est-à-dire iconodoules.
Oui, les adorateurs d'images qui définissent au fil du temps, et notamment à travers le Concile de Nicée II, ce qu'il faut vénérer à travers l'image. Alors, ce qu'il faut vénérer à travers l'image, ce n'est pas l'icône en tant que telle, mais c'est le référent, donc cette double nature humaine et divine du Christ, ce qu'on appelle dès lors le prototype.
Prototype, encore un mot nouveau. L'histoire de l'iconoclasme est souvent faite par les iconodoules. Si on prend le deuxième grand moment, le XVIe siècle, Luther dans l'espace germanique, surtout Calvin en France dans les années 1550-1570, on ne retient généralement de cette crise iconoclaste déclenché par la réforme que ce que disent les iconogoules, les iconodoules, pardon, qui la décrivent comme un vaste théâtre de supplices et de cruautés épouvantables.
Alors c'est sans doute moins vrai que pour l'iconoclasme byzantin, où là effectivement seuls les vainqueurs ont laissé des traces. Il y a aussi une historiographie protestante de l'iconoclasme protestant et huguenot en particulier. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'il importe sur cette deuxième vague donc de l'iconoclasme, c'est de voir que c'est un iconoclasme sélectif, souvent organisé, qui mêle classe populaire et classe lettrée, notamment des hommes de loi, et c'est un iconoclasme qui constitue, Olivier Christin l'a très bien montré, une sorte de théologie en acte, c'est-à-dire qu'on ne vise pas tous les symboles religieux, mais on met à l'épreuve du divin les images qui font l'objet d'un culte miraculaire. Donc en particulier...
celle des saints, des vierges.
Celle des saints, la Vierge et des crucifix également. Hein. Et dans le geste même de l'iconoclasme, on met à l'épreuve l'idole, entre guillemets. Donc lors d'une de ces violences iconoclastes à Angoulême en 1562, un iconoclaste s'écrit face à un crucifix qu'il jette au feu « Si tu es Dieu, lève-toi pour faire miracle ».
Ce qui se passe pendant la Révolution, est-ce que c'est de l'iconoclasme, au sens que nos auditeurs ont maintenant bien saisi, ou est-ce que, allez, encore un mot, est-ce que c'est seulement du vandalisme, comme on l'a souvent expliqué, à partir même du moment où la Révolution se déploie?
C'est un mot hérité justement de la Révolution, un mot créé juste après la, entre guillemets, terreur, par l'abbé Grégoire, donc dans un rapport sur le vandalisme, un des trois rapports qu'il a rédigé sur le vandalisme, donc en août 1794, et qui désigne une espèce de pulsion destructrice qui vise en particulier les monuments d'art. Or, l'iconoclasme sous la Révolution prend des formes beaucoup plus compliquées, mais...
Tenez la preuve. C'est une archive sonore refabriquée. Nous sommes dans une église désaffectée violemment au plus fort de la déchristianisation 93.
Nous ne voulons plus d'idoles inanimées. Détruisons le symbole du fanatisme.
Autrefois, au nom du bon Dieu, les prêtres régnaient en tout lieu. Mais tout a bien changé, aujourd'hui le clergé.
La fureur populaire contre la royauté déchue s'exerça particulièrement sur l'Église qui avait reçu le reste et valut à cette malheureuse basilique des déprédations effroyables, non seulement contre les trésors d'art qui étaient accumulés, contre les tombes aussi, mais qui arrivèrent à un désastre tel que l'Église, lorsque tout fut terminé, n'avait plus ni dallage, ni toiture, ni vitraux, et qu'on songeait même à la raser pour ne garder que les parties basses et les convertir en marché couvert.
La basilique de Saint-Denis, une émission d'Abderrisker de 1956, oui, les tombeaux des rois, mais aussi bien les statues de Notre-Dame. Est-ce que ce sont seulement des individus de la race Capet qu'on élimine? Non, on veut assassiner avec ces statues des vies qui relevaient de la sacralité divine. La statue était bien plus qu'une statue.
Oui, on veut surtout éradiquer la monarchie dans ses fondements de droit divin, c'est-à-dire éliminer les fameux deux corps du roi, le corps physique et le corps mystique de la monarchie. Et le moment dans lequel s'inscrivait l'archive sonore que nous venons d'écouter, c'est-à-dire l'automne 1793, est celui de l'apogée de cette désincorporation de la monarchie, puisqu'on s'attaque non seulement au tombeau, comme il a été dit, mais aussi aux cadavres des souverains qui sont inhumés, si l'on peut dire, jetés dans une fosse commune recouverte de chaux. On est aussi dans le moment déchristianisateur que vous avez évoqué à l'instant.
C'est sans fin, parce que après il va y avoir des appels à raser Versailles. Chaumette va proposer qu'on s'attaque aux animaux rares du muséum d'histoire naturelle, là on touche à la biodiversité, c'est le sacré, le plus sacré qui soit pour nos contemporains. Ça va d'ailleurs finir par avoir des effets inattendus, parce que la Révolution va marquer elle-même la limite des destructions qu'elle ordonne.
Voilà, dans le moment même où elle détruit, elle sélectionne, et donc elle trie, dans un moment où la conscience patrimoniale, ce n'est pas que la Révolution, mais la conscience patrimoniale s'aiguise. C'est donc le moment où l'on isole, par exemple, les tombeaux qui sont considérés comme des monuments d'art, et qu'on les rassemble. C'est Alexandre Lenoir qui dirige cela, dans le musée des monuments français, effectivement. Donc, iconoclasme et patrimoine en partie lié.
L'idée que se constitue un patrimoine national et universel qu'il faut donc préserver.
Oui, c'est aussi le moment où naissent les archives nationales d'ailleurs. Donc l'idée d'un patrimoine commun, voire national, voire universel, est effectivement très importante. Mais ce qu'il est très important de noter, parce que là on s'est focalisé sur le moment 1793, c'est que le rapport aux signes au fil de la Révolution évolue considérablement. Et que si effectivement des solutions draconiennes ont souvent été adoptées vers 1793, on a assister à des négociations beaucoup plus subtiles au début de la Révolution. L'iconoclasme n'était pas d'ailleurs que anti-religieux ou anti-monarchique, il visait aussi les signes de la féodalité, et en particulier les armoiries lorsque sont abolis les titres de noblesse en juin 1790, et qu'il s'agit d'effacer du coup ces armoiries de l'espace urbain. Et là, on constate que la municipalité parisienne dialogue avec les propriétaires, avec les habitants qui envoient des lettres et définissent de leur propre chef ce qu'est une armoirie à détruire, ou au contraire un ornement, un signe digne d'être conservé.
Alors, l'idée commune, c'est qu'au XIXe siècle, avec les crises, on va en explorer quelques-unes, 1814, 1815, 1830, 1832, 1848, 1871, il y a une répétition sur un mode mineur de l'iconoclasme, puisqu'il y a une civilisation progressive des mœurs. Alors, ça mérite examen. Il y a 200 ans, 1815, il y a eu beaucoup de violence contre les représentations de Napoléon. Vous dites aussi qu'il y en a eu contre des objets tout simples, les cocardes.
Oui, c'est pourquoi je vais rajouter encore un mot. Je préfère parler de sémioclasme.
Pardon ?
Sémioclasme, c'est-à-dire la destruction de signes ponctuels qui peuvent être plus que des images, moins que des images, effectivement, des cocardes par exemple, ou un détail sur une fresque ou un bas-relief, et qui montre bien que tout ça, c'est assez subtil.
Juillet 1830, Charles X abdique après avoir tenté un coup de force contre les libertés garanties par la charte. Essayez d'identifier, c'est une question que je pose aux vieux cinéphiles, la voix qu'on va entendre après le récit de l'abdication du roi.
Mon cousin, je suis trop profondément peiné des maux qui affligent ou qui pourraient menacer mes peuples pour n'avoir pas cherché un moyen de les prévenir. J'ai donc pris la résolution d'abdiquer la couronne en faveur de mon petit-fils. Ici, je me borne à faire connaître ses dispositions. C'est un moyen d'éviter encore bien des maux.
Alors, il y a cette excitation qui naît d'une manifestation qui va tourner mal. Qui tourne mal ? Manifestation, insurrection, affolement ! Parce qu'on se rend compte qu'on ne peut plus arrêter les événements. C'est la guerre civile, les quartiers de Paris se mettent à flamber d'une façon absolument imprévisible, les gens descendent dans les rues, les femmes prennent une part incroyable au combat, les gamins de Paris, notamment une faune de petits gosses qui se mettent, comme font les petits parigots, à remuer du pavé, à prendre des armes. Ça devient un Paris incroyable.
Alors la voix, c'est Jean-Louis Borry, qui n'est pas seulement un critique de cinéma, qui était un bon connaisseur du 19e siècle. Il parle des gamins. Et vous, vous racontez qu'il y a des gens qui tirent sur les horloges publiques en 1830, comme si on pouvait retourner le temps, comme si les vivants allaient l'emporter sur les morts. C'est ça aussi, l'iconoclasme.
C'est vrai, c'est très important ce bouleversement du temps révolutionnaire, le fait d'arrêter le temps officiel du pouvoir, puisque ces horloges se trouvent sur des monuments publics, c'est indiquer un transfert de la souveraineté dans la direction du peuple insurgé. Donc, on a en 1830 à la fois une répétition de l'iconoclasme révolutionnaire, puisqu'on s'attaque en particulier aux fleurs de lys, comme on l'avait fait en 1791 et plus encore en 1792. Mais c'est autre chose qui est visée en réalité, c'est l'alliance du trône et de l'autel qui avait, c'est comme ça qu'on l'aperçoit en tout cas, dominé sous la Restauration. Et donc, une sorte de guerre qui se prolonge dans les guerres de signes, qui se prolonge dans les mois qui suivent les Trois Glorieuses, oppose les croix de mission qui avaient été plantées sous la Restauration et les arbres de la liberté.
On faisait des missions publiques dans les villages.
Oui, des missions de reconquête religieuse sous la Restauration. Et puis, on plantait des croix monumentales qui sont abattues assez massivement dans les mois qui suivent la Révolution de 1830, tandis que des arbres de la liberté sont plantés en hommage à la Révolution et qui sont eux-mêmes abattus par les contre-révolutionnaires. Car l'iconoclasme au XIXe siècle, c'est la poursuite aussi de ce conflit révolution contre-révolution.
Et il y a des préfets intelligents, vous citez celui du Gard, qui disent on va tout replanter, les croix et les arbres, parce qu'il y a toujours, quand il y a de l'iconoclasme en France, de la négociation, beaucoup plus qu'on ne croit. Les gamins de Bory ont joué sur le trône de Charles X, ils se sont assis dessus, ils ont dit coquin, c'est vachement confortable, enfin le mot vachement n'existait pas, le jeu avec le trône va reprendre en 1848. Voici ici une chanson qui est le signe de ralliement pour les 48ards, elle est signée Pierre Dupont, c'est la chanson des ouvriers dans une interprétation évidemment magistrale d'Armand Mestral.
Nous dont la lampe le matin au clairon du coq se rallume, nous tous qu'un salaire certain ramène avant l'aube à l'enclume. Nous qui des bras, des pieds, des mains, de tout le corps luttons sans cesse, sans abriter nos lendemains contre le froid et la vieillesse. Quels fruits tirons-nous des labeurs qui courbent nos maigres échines? Trouvons les flots de nos sueurs, nous ne sommes que des machines. Nos babelles montent jusqu'au ciel, la terre nous doit ses merveilles. Dès qu'elles ont fini le miel, le maître chasse les abeilles.
De l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
L'iconoclasme, mais chez nous, en France, en Europe, avec Emmanuel Furex, qui a animé un excellent collectif intitulé Iconoclasme et Révolution aux éditions Champvallon. Le gamin de Bory, qui jouait sur le trône en 1830, devenu plus vieux, qu'est-ce qu'il fait du trône en 1848 ?
Alors c'est le cœur du récit, un des cœurs du récit insurrectionnel de la Révolution de février 1848, puisque la foule insurgée pénètre dans les Tuileries, c'est un rituel qu'on retrouve depuis la Révolution française, s'empare du trône de Louis-Philippe et le promène à travers les boulevards de Paris en enjambant les barricades et en l'amenant au pied de la colonne de Juillet où reposent les morts de 1830.
Place de la Bastille.
Place de la Bastille, exactement. Exactement, et là, où ce trône est brûlé. Dans un auto-da-fé qui est une espèce de régicide symbolique, d'exécution en effigie de la royauté, comme le disent les républicains de 48.
Mais l'histoire de l'iconoclasme n'est pas que répétition. Je voudrais que vous nous racontiez une autre scène. On est au Palais Bourbon, le Parlement est envahi, c'est rituel. Les leaders s'en vont à l'hôtel de ville proclamer le gouvernement provisoire, c'est rituel. Et puis alors, il y a un type qui voit le tableau Louis-Philippe qui prête serment, le souvenir de 1830. Alors, il commence à tirer dessus.
Oui.
Et là.
Et là, donc, intervient un insurgé pour lui dire qu'il s'agit d'un monument national et qu'il faut donc le protéger. Donc,
respect au monument, pourquoi détruire, citoyen ?
Oui, c'est ça, c'est le témoignage d'une espèce de montée de la conscience patrimoniale. Alors, cette conscience n'est pas toujours respectée, puisque des pillages ont effectivement eu lieu aux Tuileries au même moment. Mais on sent quand même un processus s'acheminer.
Alors, est-ce que la Commune, c'est le crépuscule en 1871 de l'iconoclasme, quand on brûle l'hôtel, la maison particulière de Thiers ? On s'interroge quand même, il y a le signe à détruire.
On la détruit méthodiquement, on ne la brûle pas. Hein.
Voilà.
Et sur un ordre officiel.
Et qu'est-ce qu'on fait de ce qu'il y a à l'intérieur ? Là, on se pose la question.
Et alors, précisément, cheminement de la conscience patrimoniale, on sélectionne les objets à conserver, en particulier donc une collection de bronze possédée par Thiers et Courbet, qu'on a stigmatisé comme le déboulonneur de la colonne Vendôme, comme le nouveau barbare, a été au contraire aux premières loges dans la protection de cette collection et plus largement du patrimoine artistique parisien, puisqu'il a fait blinder les fenêtres du musée du Louvre, par exemple.
Ah, la colonne Vendôme. Napoléon Ier en était déjà tombé en 1815, Napoléon III l'y a remis en 1863, et voilà qu'il est de nouveau mis à bas.
La Commune de Paris, considérant que la colonne impériale de la place Vendôme est un monument de barbarie, une affirmation du militarisme, un attentat perpétuel à l'un des trois grands principes de la République française, la fraternité, décrète. La colonne de la place Vendôme sera démolie.
C'est une photo très spectaculaire qui a été exécutée par Bruno Braquet le 16 mai 1871 sur la place Vendôme. Le cadrage repose sur la prise en compte exclusivement de la statue de Napoléon en empereur romain qui avait été sculptée à la demande de Napoléon III en 1863. Derrière elle se trouve un mélange très emblématique de la société parisienne pendant la Commune, c'est-à-dire à la fois des civils qui sont vraisemblablement des élus de la Commune et des fédérés qui posent en uniforme et en armes. Parmi eux figure à l'arrière-plan un personnage avec ce visage rond, cette barbe très abondante et ce képi de mobile qui serait peut-être Courbet. Soit cette image est l'emblème de l'entreprise révolutionnaire de la Commune, conformément à cela, donc la chute de la colonne est un acte politique fondateur, soit l'image est la preuve accablante du vandalisme révolutionnaire, et cette interprétation serait une interprétation évidemment plutôt versaillaise.
Bertrand Tillier, historien de l'art, alors cette photo, elle est extrêmement connu. On voit le fumier dispersé sur le sol. Je ne sais pas si c'est pour que Napoléon Ier tombe le nez dedans ou bien si c'est pour amortir le choc. Voilà que l'iconoclasme fournit des images.
Oui, alors ce n'est pas une invention de la Commune, puisqu'on l'observe justement à propos du trône brûlé de 1848. Les gravures qui représentent cette procession et cet auto-da-fé circulent même à travers l'Europe. Donc on a déjà effectivement un iconoclasme qui produit des images. Mais c'est plus vrai encore, effectivement, avec la colonne Vendôme, où on a un véritable reportage photographique avec des dizaines de photographies qui représentent les différentes étapes de la chute et puis de la réappropriation. Effectivement, Bertrand Tillier, dans son commentaire, le soulignait à juste titre. On pose avec fierté, hein, les fédérés posent avec fierté, autour du piédestal pour montrer qu'ils sont à nouveau souverains dans l'espace parisien.
Réappropriation, parce que souvent, quand il y a une destruction, est convoquée, ça c'est un dernier exemple, une procession autour, un groupement de peuple pour prendre acte.
C'est ça, c'est-à-dire, enfin, selon les cas, c'est très différent, mais une des modalités effectivement de l'iconoclasme, c'est la fête. C'est le spectacle que l'on met en scène et qui permet justement au peuple d'être acteur lui-même, même s'il ne prend pas physiquement les instruments pour détruire ou déboulonner les statues, d'être acteur de ce moment qui est un accélérateur de l'histoire. Et ça, c'est une nouveauté introduite par la Révolution, c'est que on accélère, on a le sentiment, bien évidemment, c'est un peu imaginaire, mais d'accélérer le temps de l'histoire. Le 11 août 1792, pardon de revenir en arrière, mais le 11 août 1792, juste après la chute de la monarchie, les sans-culottes détruisent l'ensemble des statues royales des places parisiennes.
Mais j'ai essayé de rassembler justement cette période que vous avez analysée, Manuel Furex. on a plutôt le sentiment, progressivement, d'une décélération de l'iconoclasme. Il s'amortit, il dépérit. Il y a une dernière notion que j'aimerais que vous introduisiez. On a eu le mot iconoclasme, on a eu le mot sémioclasme. Vous avez bien retenu, chers auditeurs. Maintenant, au mieux, au pire, nous avons des iconoclashes. Qu'est-ce que c'est ça ?
Alors, un iconoclash, c'est le sociologue Bruno Latour qui avait fait une grande expo autour de ce concept, c'est qu'on peut appliquer à notre histoire de l'iconoclasme en révolution. Ça consiste dans un geste que l'on ne peut pas interpréter ni dans le sens de la destruction, ni dans le sens de la conservation. On hésite. Exemple, on recouvre le buste d'un souverain ou une statue de saint d'un voile noir.
Alors, est-ce que c'est en suspens.
C'est en suspens. Est-ce que c'est pour le protéger d'éventuelles destructions ou au contraire, c'est pour le vider de sa sacralité, pour l'ôter de la vue de l'espace public.
En même temps que je recommande une dernière fois chez Champvallon votre livre Iconoclasme et Révolution, juste une dernière question. Ce qu'on voit à Mossoul et dans d'autres villes de Mésopotamie, je ne suis pas sûr que ce soit encore de l'iconoclasme, il n'y a pas de grand concours de peuple, de réappropriation, de fête.
Alors, c'est très peu de choses, parce qu'on a vu simplement quelques images, mais ce qui frappe, c'est que, d'une part, il y a, comme vous le disiez en introduction, un marché clandestin de revente des fragments, probablement, de statues, donc... Là, on est plutôt du côté du vandalisme, mais surtout, ce qu'on vise à travers ces gestes, par les images qui sont diffusées, c'est la conscience patrimoniale de l'Occident, et c'est un geste, du coup, de terreur, qui est analogue aux décapitations qui sont également orchestrées.
Dans l'espace laissé libre par les bulldozers, les marteaux piqueurs et les masses, il n'y a pas un nouveau vocabulaire qui s'installe. L'iconoclasme cherche, parce que c'est un moyen pédagogique, à imposer un nouveau vocabulaire.
Alors, le plus souvent, en tout cas, au geste destructeur, à l'espace vide, se substitue un nouveau langage, de nouveaux rituels. Il faut que le temps, pour cela, des révolutions arrivent à s'installer. Ça a été le cas, évidemment, sous la Révolution française, où on a pensé une véritable révolution de l'espace et du temps, ce qu'on appelait la régénération culturelle. Mais toutes les révolutions n'ont pas pu, en particulier au XIXe siècle, aller jusque-là.
Et là, dans ce cas précis, si c'est une révolution, pas de nouveau vocabulaire. Dans le cas précis de Daesh, pas de nouveau vocabulaire.
Ah, semble-t-il, en tout cas à part des drapeaux noirs, je ne vois pas de nouveau code symbolique s'imposer. Oui.
Le vide qui prend la place du vide qu'on a créé. L'émission était réalisée par Jacques Sigal avec à la technique Lucas Vaillant, les préparations Franck Olivard, Frédéric Martin et Ninka Negulesco.